Nous remercions le Seigneur pour le privilège que nous avons de nouveau d'être ici. Nous avons le privilège de nouveau d'être ici. Et vu extérieurement, Dieu veut notre bien, nous n'avons même pas besoin d'aller en vacances. Nous avons déjà ici le temps de vacances ici. Et nous nous épargnons beaucoup de frais et de fatigue. Remercier sur le Seigneur. J'ai reçu un appel hier de Kabbalah Brian. Et les frères de l'Italie nous saluent tous fraternellement. Le frère Kenichi de Palermo demande expressément que nous puissions venir. Et je ne sais pas quand. Le grand problème depuis plusieurs années, c'est le temps. Et c'est ainsi. Le peu de temps que nous avons à notre disposition, nous devons encore le partager. Et alors, il n'y a plus rien qui reste. Et maintenant, vendredi, samedi et aujourd'hui, normalement, j'aurais dû rester à Salzbourg, en Autriche. Les frères et sœurs ne voulaient pas me laisser repartir. Et je pensais, je dois revenir. Et voilà que je suis ici. Mais je ne vais pas toujours rendre des choses faciles comme ça aux frères. Leur temps arrive aussi, car l'août, ce sera pour la Donc, août, c'est pour la Scandinavie. Septembre pour l'Afrique. Octobre pour le Pakistan. Et novembre pour l'Inde. Et c'est ainsi que les mois sont planifiés. Mais je serai toujours ici. Si cela est possible. Octobre, donc, pour le Pakistan et le fin fond de l'Est. Et vous savez, je n'ai pas de repos. Si c'est possible, si je peux le faire, il y a quelque chose qui me pousse. Et ça, c'est depuis que je suis croyant. Je ne peux pas laisser une réunion. Ça, c'est une chose qui m'a été donnée depuis que je suis croyant. Et cette nuit, vers 2h du matin, le frère Empel a appelé. Nous lisons seulement parfois les nouvelles ici, il y a quelque chose et autre chose, des événements qui se sont passés. Le 11 du mois passé, il y a eu une tentative de coup d'État au Ghana et bien sûr que ça n'a pas fonctionné et beaucoup de prédicateurs maintenant et de pasteurs ont été mis en prison et ont été incarcérés et personne ne sait si on les retrouvera. Et le frère Prince Empel est bien sûr a pu quitter le pays et il est à Londres, il est arrivé à Londres sans que quelque chose lui arrive. Tant que nous ne participons pas et ne savons pas les choses par lesquelles ces hommes doivent passer, quand un malade mental veut gouverner un pays, alors c'est simplement la catastrophe. Ce sont des conditions que personne ici ne peut mesurer. De telles conditions sont là-bas à l'ordre du jour. Nous voulons penser à tous ces frères et ces sœurs. Et aussi dans ce pays, nous avions eu de très grandes réunions. Elles sont allées jusqu'à 1000 personnes. Mais justement, dans des conditions qui ne sont pas habituelles pour nous, que nous ne connaissons pas, en fait. Donc, nous voulons penser à eux dans nos prières. Le frère m'a demandé de l'aide financière et nous avons envoyé déjà cette année pour le Ghana, nous avons donné plus de 6000 démarques et je lui ai dit, mon bien-aimé frère, les choses ne vont pas si simples que ça, comme tu le penses, parce que nous avons la responsabilité pour le monde entier, ça on peut le dire, pour le monde entier. D'autres pays aussi, je devrais le dire, des frères, ont beaucoup plus simple. Ils s'occupent de personne, seulement de leur propre personne, de leur voyage. Ils s'occupent seulement de leur voyage et de leur bien-être. Mais Dieu nous a mis dans le cœur justement de nous a mis dans le cœur d'aider et de prendre des responsabilités de toutes sortes de manières. Et je me suis donné cette intention à la fin de l'année. J'ai l'intention de donner un court compte-rendu de ce qui, ici et là, a été donné comme aide financière. Pour que vous puissiez savoir où reste votre argent, c'est important. Il y a même des maris qui veulent savoir où l'argent qu'ils donnent à leur femme reste. Et pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas savoir où votre argent part et ce qui est fait avec. Donc, beaucoup de salutations du frère Helmut Frank. Il vous salue. Ils sont en vacances et beaucoup d'autres aussi. Alors que la parole d'introduction a été lue dans 1 Pierre 3, particulièrement ici les versets qui nous touchent tous de nouveau les cœurs à partir du verset 8, parce que nous savons ce que des paroles peuvent produire. D'un côté, elles peuvent apporter le salut, faire du bien, servir à l'édification, manifester la grâce, être du sel, produire du bien, édifier. Mais d'un autre côté, elles peuvent aussi apporter la mort, détruire, et ravager, etc. Et ici, l'homme de Dieu dit dans 1 Pierre 3, par l'Esprit de Dieu, au verset 10, 1 Pierre 3, verset 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. J'ai pensé aux paroles du Seigneur, aussi en lisant cette parole de Matthieu 12, verset 36. Ici, il dit dans Matthieu 12, verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes propres paroles que tu seras condamné. Pas ce que d'autres disent sur nous. C'est pas ça qui sera notre jugement. Mais ce que vous avez dit sur les autres, ce que nous avons dit sur les autres, ce que tu as dit, ce que j'ai dit sur les autres, c'est ce qui sera mon jugement. Le jugement, que la condamnation que le Seigneur donnera est déjà venue par ta bouche et par ma bouche. C'est ainsi, c'est simple. Ta condamnation sera par tes propres paroles, le jugement. Et alors personne n'aura besoin de se plaindre de son jugement, car toi et moi, nous allons écouter les propres formulation que nous avons prononcée de notre propre bouche. Nous allons les réécouter. C'est enregistré et cela ne sera pas inconnu et étranger. Ce sera une belle formulation, n'est-ce pas, que nous avions comme ça à notre contrôle. Hein, tout ce que nous avons pensé et dit sur les autres. C'est comme ça avec Dieu. Tout est enregistré. On peut parfois lire ces choses-là et même pas s'arrêter là-dessus et puis ne même pas le recevoir dans le cœur, méditer, comprenant dans Matthieu 7, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7, versets 1 et 2. Quand on pense à tout cela, c'est comme ça que le jugement aura lieu, le jour du jugement. Si simple que ça. Verset 36, il relit le verset 36 de Matthieu 12. « Je vous le dis au jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » non pas seulement condamnés de leurs propres paroles, mais ils rendront même compte. Ça, c'est la même partie. C'est la première partie. Rendront compte. Car par tes paroles, ou bien alors de tes paroles, en raison de tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ce sera très simple, ne vous inquiétez pas, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Et le jugement sera très facile. Dieu ne se rendra pas les choses difficiles, ce sera très facile, très simple, et cela se déroulera sans frottement, et il n'y a pas quelqu'un qui va devoir se plaindre de son jugement, car vous savez, depuis le jardin d'Éden, et là, aucun homme peut se justifier. Depuis le jugement, chacun a mis la faute sur l'autre. Adam a dit la femme que tu m'as donnée. La femme disait le serpent. Et c'est comme ça que l'un a mis la faute sur l'autre. Ça, c'est depuis, ça a toujours été comme ça depuis le jardin d'Éden. Et si on est sincère, c'est comme ça aussi aujourd'hui encore. Mais en ce jour-là, le jour du jugement, personne va pouvoir pousser mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Non, là tu seras là seul et tu seras jugé de ce qui est sorti de ta bouche. La condamnation du Seigneur sur toi et sur moi est déjà à l'avance sortie de ta propre bouche et sortie de ma propre bouche. Sachant que dès que nous ouvrons notre bouche, ça pourrait être déjà notre condamnation, le jugement, parce que c'est enregistré. Alors la chose sera très simple. Vous savez, quand on a cru, sous la connaissance de Dieu et par la conviction du Saint-Esprit, tout ce qui nous rendait la vie difficile dans la prière, nous l'avons apporté. Je peux bien me rappeler, sous la prédication, l'Esprit de Dieu a mis sa main sur les différentes choses qui nous condamnaient. On savait où est-ce que nous avions eu des manquements. Celui qui se mettait facilement en colère à chaque occasion, dans la prière, sincèrement, il a apporté ça au Seigneur. Dans la prière, il lui a dit, Seigneur, délivre-moi de la colère, délivre-moi. Et chacun a reconnu ses manquements et l'a apporté dans la prière au Seigneur. Et il a prié, il a supplié, il est resté dans la prière. Et tout ce qui lui rendait la vie difficile, il a demandé au Seigneur de l'en délivrer pour qu'il puisse servir librement le Seigneur. Tout cela, les choses semblent être différentes aujourd'hui. Mais ou bien alors, est-ce que quelqu'un ressent que le Saint-Esprit, sous l'écoute de la parole, nous conduit à la repentance et que nous ne soyons pas toujours en train de penser aux autres et qu'il nous convainc du péché, comme il est écrit, quand l'Esprit de Dieu sera venu, il convaincra le monde du péché. Il rendra témoignage de moi, dit le Seigneur. Tout cela va avec cela. Sans cela, il n'y a pas de régénération, sans repentance. Des gens qui ont expérimenté Dieu doivent, en ce qui concerne les points et les domaines dans lesquels ils veulent être régénérés, ils doivent reconnaître ces domaines où ils doivent être encore régénérés. Et que dans différents domaines, ils sont encore, le vieil homme est encore là et ils ne pourront pas subsister devant Dieu avec ça. Et alors que nous lisions cela, ça m'a touché beaucoup le cœur. Nous devons être régénérés complètement. Les choses anciennes doivent être entièrement passées. Le Seigneur a reproché ceux qui étaient autour de lui, comme l'avons lu hier, ils ne pouvaient pas croire. Et le Seigneur leur a reproché leur incrédulité, ceux qui étaient autour de lui. Nous pensons parfois, moi, chacun doit m'accepter comme je suis. Et cela, c'est juste, c'est vrai. Mais si Dieu, lui, nous reçoit, tels que nous sommes. Nous n'allons pas rester comme nous sommes. Les hommes doivent nous recevoir tels que nous sommes. Mais Dieu nous reçoit, c'est vrai, mais il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Il veut nous transformer, il veut nous régénérer, il veut nous changer. Les côtés pointus doivent disparaître et tout ce qui ne peut pas subsister devant le Seigneur, il veut le changer, il veut le régénérer, le transformer. Et ça, il le fait aussi. Dans ce psaume, il y a beaucoup de paroles. Et dans ce psaume 34, c'est dans le psaume 34 au verset 21, d'où cette exhortation de 1 Pierre 3, 10 ressort. Ici, il est écrit, « Il garde tous ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. » Psaume 34, verset 21. Alors que les soldats voulaient briser les os du Seigneur, ainsi nous le lisons dans l'Évangile, qu'ils n'ont pas pu le faire pour que les Écritures s'accomplissent. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Comme fidèle est Dieu, il veille sur sa parole. Les hommes voulaient briser les os comme c'est leur habitude. Avec ceux qui, de cette manière, avaient été livrés à la mort, on a brisé encore leurs os. Mais ici, ils ont voulu le faire et ils ont dû le laisser. Parce que, par l'Esprit de Dieu, cela avait été prononcé. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Vous direz, mais c'était des incroyants, des soldats romains rudes. Qu'est-ce qu'ils avaient à se soumettre à la parole de Dieu? Ne vous inquiétez pas, ne vous étonnez pas. Tout, même le diable et tout, à la fin, va se fléchir et être sous le marchepied du Seigneur. Comme nous le disons dans la prescription de frère Branham, laissez-moi vous poser la question, vous n'avez pas besoin de lever la main, mais qui lit les prédications, qui lit les brochures, qui vraiment lit vraiment du début jusqu'à la fin les prédications? Pas seulement de regarder à l'intérieur, ça chacun peut le faire, mais que vraiment vous lisez, que vous vous approfondissez dans les brochures et que l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, peut vous parler. Combien le font vraiment? Bon, une main me suffit déjà, les autres n'ont pas besoin de la lever. Et laissez-moi vous dire, ce sont des enseignements profonds dans ces prédications. Ce sont des paroles de révélation, des paroles profondes des Saintes Écritures qui nous sont apportées à la surface pour voir tout à la lumière de Dieu, des choses profondes qui nous sont amenées à la surface, des choses profondes qui nous sont amenées à la surface. Je voulais répéter ce que frère Branham disait. Si une parole a été prononcée de la bouche du Seigneur, de Dieu, plus jamais ça peut être repris. Dieu est donc obligé d'accomplir cette parole et de se tenir pour cette parole en chaque temps, dans n'importe quelle circonstance et situation, ça n'a pas d'importance. Qui est-ce que cela concernerait? D'un côté, une telle parole nous édifie quand ce sont des promesses de bénédiction et de salut. Mais quand ce sont des paroles qui annoncent le jugement, des paroles qui nous parlent du jugement, comme nous l'avons lu, par exemple, dans Matthieu 12, verset 36. D'après tes paroles, pas d'après les paroles de Dieu. Bien sûr que Dieu va juger selon sa parole. Même révéler les pensées des cœurs, chacun le sait. Mais ici, il ne s'agit pas que Dieu en général jugera. Dieu va juger chacun personnellement. En général, là, on ne se sent pas concerné, n'est-ce pas? Alors, on est seulement un parmi des millions. Non. Il est écrit, car par tes paroles, pas par sa parole, pas par les paroles de ton voisin ou bien de tes parents, car par tes paroles, tu seras justifié. Matthieu 12, verset 37 maintenant. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ça, c'est une chose très dure. Imaginez-vous. On va là-bas. On doit apparaître devant le jugement. On a toujours pensé avoir raison. Et le Seigneur là va juger. Et on est surpris, on ne pourra plus se sauver. Ce sont nos propres paroles, la même formulation, le même ton et tout. Il va nous laisser écouter nos propres paroles. Nos propres paroles. Alors, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Que Dieu nous accorde sa grâce. Que nous soyons lents à parler et lents à nous mettre en colère. Et cette parole que le prophète Michée, en relation avec les derniers temps, a écrit, que celui qui est sage dans ce temps, qui se taise. C'est écrit dans Amos. Que nous devons donc parler et agir comme nous devons être jugés. Et si nous prêchons la parole de Dieu, ce n'est pas pour apporter notre jugement sur les autres ou bien leur donner, leur présenter notre opinion, mais c'est de permettre à Dieu de nous parler par sa parole. Et ça, je l'ai déjà dit, je crois, mercredi, je l'ai déjà dit en insistant, mercredi, si Dieu vraiment nous parle, alors c'est puissant. Cela pénètre dans notre cœur. Et nous n'avons même pas besoin, après une réunion, de parler encore avec quelqu'un ou bien encore de tordre le sens de la prédication qu'on vient d'écouter. Mais la parole commence à agir en nous et on commence à la repasser dans notre cœur. Et on préférerait se cacher quelque part et être seul avec Dieu pour que sa parole qu'on vient d'écouter puisse continuer à nous parler pour que d'autres ne l'altèrent pas, mais que l'effet de la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse produire son effet en nous, puisse être manifesté. Il y a encore des paroles des Saintes Écritures que nous pourrions lire, qui sûrement aussi nous touchera le cœur. Il s'agit dans ce temps de ce que tous doivent être enseignés par Dieu. Et justement, cette formulation que déjà hier soir, ici, je mentionnais de cet entretien, mentionné. Si d'un côté il est prétendu, c'est exactement la même chose. Les mêmes prédications sont lues. Elles sont là. C'est le fondement. C'est le fondement. Et ensuite, cette petite phrase est ajoutée. C'est seulement un peu différent. Alors, on doit un peu sourire là-dessus. Mais vous savez, ce serait mieux qu'on pourrait même pleurer concernant ces choses. D'un côté, prétendre, ce sont les mêmes prédications. C'est la même chose que nous écoutons subitement, mais c'est seulement un peu différent. Hier, je l'ai déjà dit, dans le jardin d'Éden, Dieu le Seigneur avait parlé et ce que Ève a redonné de ce que le Seigneur avait dit, c'était plus la même chose. Ça avait été changé. C'était différent. Ça avait été redonné différemment. C'était pas tel que la bouche du Seigneur l'avait prononcé. On aurait pu dire mille fois. Mais c'est la parole de Genèse 3, verset tel et tel, oui, bien sûr. Ça peut être vrai. C'est écrit, c'était aussi la parole de Genèse 3, tel et tel verset. Mais maintenant, après que Ève l'a redonné, dit changé, plus de sa forme originelle, c'était plus la parole de Dieu qui demeure éternellement. C'était un mensonge que Satan avait servi à Ève. Oui. Et ensuite, cette remarque, c'est la même parole, mais un peu changée, un peu différemment, un peu différente. Oh, cela devrait toucher notre cœur. Il n'y avait pas grand-chose qui était changée. Seulement très peu. Un seul mot ajouté. Et cela a suffi pour changer le sens de toute la parole de Dieu. Auparavant, c'était la vie et un ordre de Dieu. Et maintenant, c'était une interprétation de l'adversaire. Et cela a caché la mort. Et cela a été possible parce que la parole originale n'a pas été comprise dans sa forme originale. Et quand Frère Branham a toujours dit en répétant que les deux choses seront très proches l'un de l'autre, on n'a pas besoin de chercher ça dans le monde entier, mais parmi nous et autour de nous. Et c'est pour cette raison, pourquoi est-ce que, avec tout ce qui est en nous, nous devons rester attachés à la parole de Dieu et ne rien ajouter et rien interpréter, rien retrancher et ne rien supporter. Mais croire seulement comme dit les Écritures, comme cela a été révélé par l'Esprit de Dieu. Et cela, nous n'ajouterons rien à cela et retrancherons rien à cela jusqu'à la fin. Et Dieu nous a secouru pour cela, nous a aidé pour cela et nous l'a mis dans notre cœur pour toujours. Ici, il est écrit, et cela, Jean 6, verset 44, et particulièrement verset 45, là, nous voulons encore une fois tirer cette comparaison. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Est-ce que cela n'est pas une parole merveilleuse? La révélation de Jésus-Christ est quelque chose de précieux. La révélation de Jésus-Christ est tellement merveilleuse. Elle est accordée à ceux qui viennent à Dieu. Ensuite, il est écrit, au verset 46, « C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. » en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ce n'est pas une foi quelconque qui nous sauve, mais cette foi divine qui par Jésus-Christ est suscité en nous, venant de la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, dans ton cœur et dans mon cœur, est placé par la grâce de Dieu. C'est de cette foi dont c'est cette foi qui nous donne la vie éternelle, qui nous sauve. Pas une foi quelconque, pas une conviction quelconque, mais cette foi qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur, est ancrée en lui, en ce qu'il a fait. Et nous savons que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, il est écrit, car il est notre paix, Éphésiens 2, verset 14, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, après avoir aboli la loi et ses statuts par le don de son corps, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau qui procure la paix. Il s'agit de ce que dans ces derniers temps, dans les jours dans lesquels nous attendons au retour du Seigneur. Il s'agit que nous ne soyons pas à nous tromper nous-mêmes ou bien à vivre dans une apparence ou bien alors en train de rêver et nous imaginer toutes sortes de choses. Mais que nous soyons dans le royaume de Dieu et que dans notre vie personnelle, nous puissions vivre les réalités de la parole de Dieu et que nous puissions devenir vraiment une partie du royaume de Dieu et que Dieu lui-même puisse être en nous tel qu'il a promis dans sa parole et qu'au commencement, dans son Église, Dieu était habitant. Nous devons être créés un nouveau, en tant qu'un homme nouveau qui produit la paix, qui procure la paix. C'est ce que veut dire Golgotha dans sa dernière conséquence. Le pardon, la réconciliation, oui et amène à cela. Mais le résultat de ta réconciliation et de ma réconciliation, de ton pardon et de mon pardon, ce n'est pas seulement la réconciliation et le pardon, puis c'est fini. Mais il faut que nous soyons devenus un homme nouveau, une vie nouvelle en Christ Jésus qui procure la paix, un homme nouveau qui procure la paix. Selon la parole de l'Écriture, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Personne ne peut dire « Je suis en Christ » et ensuite être resté une vieille création. Ce n'est pas possible. La vieille création, l'ancienne création, nous la sommes à l'extérieur de Christ. Mais si nous sommes en lui, si nous marchons selon l'Esprit, alors nous sommes une nouvelle création. En lui, rien ne peut être ancien parce qu'il est le commencement, le principe de cette création divine, de cette nouvelle création, selon la parole d'Apocalypse 3, verset 14. Il est le commencement, le principe, l'origine. Voici celui qui est le... Voilà, et ainsi parle celui qui est le commencement de la création de Dieu, le principe, l'origine. Et en lui, il n'y avait rien de vieille nature. Non, il était en tant que Fils de Dieu, manifesté selon l'esprit de sainteté. C'est ainsi que Paul l'écrit dans Romains, le chapitre 1. Ici, il nous est dit que nous avons été créés comme un homme nouveau qui procure la paix. Un homme qui ne procure pas la paix n'est pas un homme nouveau en Christ Jésus notre Seigneur. Ne nous trompons pas. Il peut se louer du pardon de ses péchés. Il peut dire, je crois à la réconciliation qui a eu lieu. Mais cela fait que régler ton passé. Cela a affaire au rachat. Mais le rachat n'est pas terminé en ce que nous ayons reçu le pardon de nos péchés. Mais que quelque chose de nouveau ait été créé par la grâce de Dieu. Une transformation, une régénération, un changement. Comme je l'ai dit hier, dans les temps des réveils, l'Esprit de Dieu a agi puissamment, à tel point que des hommes ont été convaincus des choses avec lesquelles ils ne pourront pas subsister devant Dieu. C'était un soupir, c'était une supplication, c'était une prière, on voulait percer. Et être délivré de ce qui s'attachait encore à nous, qui ne pouvait pas subsister devant Dieu. Parfois, de telles prières ont duré, mais elles ont porté leurs fruits. Et nous devons nous laisser dire cela. L'Esprit de Dieu conduit à la repentance. Il accorde la connaissance de ce dans notre vie. Il nous fait reconnaître ce qui ne peut pas se tenir devant Dieu. Pas chez les autres, mais chez nous-mêmes. Au verset 16. Et verset 16 ensuite, Éphésiens 2. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc l'inimitié est détruite. Là où l'inimitié a été détruite, a été tuée, là, la réconciliation, la paix avec Dieu sera manifestée, pourra être manifestée. Oh, que ce ne soit pas seulement que nous puissions chanter avec consécration quand la paix, qu'elle repose céleste, ou bien quand la paix avec Dieu pénètre mon cœur. Chacun peut chanter consacré, chacun peut fermer les yeux et comme ça. Mais la dernière question est la suivante. Est-ce que nous sommes seulement dit cela ou bien dit ça aux autres, mais est-ce que c'est vraiment devenu une réalité divine dans ton cœur, dans ta vie? Si la paix avec Dieu pénètre mon cœur, mon âme, alors le cœur loue et exalte. Avons-nous seulement chanté ou bien est-ce que le cœur vraiment exalte et loue? Je ne voulais même pas m'arrêter là-dessus, sur cette pensée. Ici, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 9, il est écrit: pour ce qui est de l'amour fraternel, 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même été enseigné de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ici, de même, paroles comme dans l'évangile de Jean sont écrites, appris de Dieu, enseigné de Dieu, car ils seront tous enseignés de Dieu, car ils apprendront tous de Dieu. Autrefois, c'était encore au futur, le Seigneur l'avait enseigné, et ensuite il disait, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, il vous enseignera sur toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Et ici, cela est mentionné en tant que réalité, fait réel, car vous avez vous-même été enseigné de Dieu à vous aimer les uns les autres. Là, on pourrait se poser la question, quand est-ce que Dieu nous a enseigné? Quand est-ce que nous avons appris de Dieu? Quand est-ce que nous avons appris de lui? Et là, nous pouvons dire, sûrement, il s'est donné beaucoup d'efforts. Et il nous a enseigné. Année après année, de notre Seigneur, il est écrit, de lui, de notre Seigneur, il a commencé à faire les deux. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Actes chapitre 1. Il a placé les œuvres avant l'enseignement. Nous avons placé l'enseignement avant les œuvres. Et nous ne sommes pas seulement sur un seul pied, mais donc nous ne restons pas seulement accrochés à un seul pied, mais aux deux pieds. Et spirituellement, nous marchons avec des cannes. Ici, de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner, et entre ce qu'il faisait et ce qu'il enseignait, il n'y avait aucune différence. Les deux étaient comme deux pas, marchant pas à pas l'un avec l'autre. Entre ce qu'il faisait et ce qu'il enseignait, il n'y avait pas de différence. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et on peut aller dans Hébreu aussi. Là, la parole d'Ésaïe est écrite dans Hébreu que ce n'est pas un frère qui enseignera l'autre, mais tous seront enseignés de Dieu. Chacun ici a été enseigné. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui t'a enseigné, ou bien tu n'as pas appris ça de quelqu'un, mais c'est Dieu lui-même qui te l'a appris, qui t'a enseigné. Tu as appris cela de Dieu lui-même. Dieu lui-même a enseigné chacun. C'est peut-être raison que tous ceux qui sont sous l'enseignement, qui se sont assis sous l'enseignement de Dieu et qui n'ont pas été enseignés par les autres, ce sont ceux-là qui vont venir à l'unité, à l'union en esprit. Et si quelqu'un veut enseigner l'autre, et ça je l'ai dit aussi mercredi, je souhaiterais le dire à tel point que tous le comprennent, ceux qui ont encore cette démangeaison. Celui qui veut encore enseigner les autres, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris le ABC de l'enseignement de Dieu. Il est complètement à côté de la page. Il ne s'est même pas lui-même assis au banc de l'école. Il n'a pas encore lui-même pris place. Il est encore en train de courir à droite, à gauche et il ne sait rien du tout. L'enseignement divin a lieu dans l'ordre divin. Il y en a trop qui sont en chemin, en voyage, pour enseigner des autres. Que tous puissent s'asseoir au banc de l'école de Dieu et recevoir l'enseignement de la bouche de Dieu. Alors, ils auront beaucoup à faire, eux-mêmes. Ils n'auront plus de temps à déranger les autres et à présenter leurs opinions et leur façon de voir les choses qui sont toujours, à leurs yeux, correctes. Je n'ai jamais vu quelqu'un dont son opinion est fausse. S'il y en a cinq qui sont assis là et que chacun donne sa propre opinion, alors pour lui, son opinion est correcte, mais elle ne sert à personne. Ici, il est écrit, car vous avez vous-même appris de Dieu, vous-même. 1 Thessaloniciens 4, verset 9, ça c'est quelque chose de très merveilleux. Et ensuite, ces paroles-là sont écrites à vous aimer les uns les autres. C'est ça qu'il s'agit. Nous avons compris que Dieu enseigne. Et là où Dieu peut se révéler et apporter, et que des hommes prêtent l'oreille à son enseignement, alors le fleuve de son amour divin se répand dans notre cœur. Ne pensez pas que quelqu'un dans la présence de Dieu peut être. Ensuite, rester tel qu'il est. Quelqu'un qui apprend de Dieu lui-même, il sera transformé de gloire en gloire et de clarté en clarté par l'Esprit du Seigneur, comme c'est écrit par Paul dans 2 Corinthiens 3 au verset 18. C'est-à-dire à l'image du Seigneur transformé. 2 Corinthiens 3 verset 18. Une autre parole que je voudrais lire est dans 2 Timothée, le chapitre 2. Aussi ici, ce sont des paroles que nous voulons laisser aller dans nos cœurs. À partir du verset 15, peut-être à partir du verset 14, 2 Timothée 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Ça aussi, c'est une parole très importante. L'enseignement divin ne vient pas où nous nous disputons les uns avec les autres et négocions. Là, c'est le diable qui vient et qui apporte du désordre. L'enseignement divin vient là, est là où la parole, sous l'onction du Saint-Esprit, est prêchée. Et où l'Esprit de Dieu peut prendre la parole et la révéler à chacun dans son cœur. Avons-nous compris cela? Est-ce que nous n'avons pas tous vécu cette parole comme vérité que ne nous a pas épargné? N'avons-nous pas, ne nous sommes-nous pas disputés? N'avons-nous pas des disputes, n'avons-nous jamais eu des disputes de mots qui ont servi à la ruine de ceux qui écoutent? Ne dit-on pas que quand il y a des disputes de mots, le troisième se réjouit? Mais quand ici, il s'agit de choses spirituelles, le troisième, c'est toujours le diable qui se tient là, ou bien qui est assis et qui écoute. Deux personnes se disputent de mots. Avoir une dispute de mots. Le diable, lui, il veut de toutes les manières apporter du désordre, de la confusion partout. Et il prend aussi la parole. Il est même venu avec le Seigneur, auprès du Seigneur, avec les Écritures. Et c'est ce qui est étrange. Si le diable venait avec ses propres paroles, alors on le reconnaîtrait tout de suite, discernerait tout de suite et saurions que c'est l'ancien ennemi. Mais il vient même au Seigneur. Il est venu même avec les paroles de Dieu. Et il a dit même, il est écrit. Car tu fais de l'éternel ton refuge, tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur t'arrivera, aucun fléau n'approchera, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces paroles-là sont écrites encore aujourd'hui dans le psaume 91, ou bien 91 au verset 11. Le diable n'a pas le droit de prendre la parole. Il a seulement le droit de se soumettre à la parole et à prendre la place qui lui est donnée. Et sa place sera dans le temps de feu. Et comme Paul pouvait le dire, dans 2 Corinthiens chapitre 11, là, il dit à l'église aux Corinthiens, et ça aussi, c'est une parole très importante, au verset 4, 2 Corinthiens 11, verset 4. Car si quelqu'un s'amène, vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé. Vous le supportez fort bien. 2 Corinthiens 11, verset 4. Vous le supportez fort bien. Le supportez. Est-ce que cela n'est pas une constatation triste? Qu'est-ce que Paul a dû ressentir? Lui à qui les choses de Dieu étaient dans son cœur, qui avait grandi dans les choses de Dieu, qui dormait et se réveillait avec les choses de Dieu. Chaque pas qu'il faisait, il était lié avec les choses de Dieu. Et subitement, il doit dire à ceux à qui, durant des années, il avait prêché. Il devait leur écrire, vous supportez fort bien, si facilement que quelqu'un d'autre vient, que quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, un autre évangile, et vous recevez par cela un autre esprit. Et vous supportez que Jésus soit prêché différemment. Et vous le supportez fort bien. C'est ainsi que c'est écrit ici. Je le relis mot à mot. Vous le supportez fort bien. Fort bien. Pas de problème. Parfois, je me suis étonné. Si de telles paroles de l'Écriture n'étaient pas écrites pour nous, alors on pourrait se décourager. Et se poser la question, mon Dieu, comment est-ce que cela est possible? Que des gens, durant des années, se sont assis sous l'annonce de ta parole pure, la plus pure qui existait depuis le temps des apôtres, et qu'ensuite, ils écoutent ceci et cela, et ensuite croient, ou on pourrait presque dire, même un aveugle, avec sa canne, pourrait discerner que la chose n'est pas en ordre. Mais il le supporte bien fort. C'était déjà autrefois ainsi. Et nous devons nous attendre à ce que dans nos jours, cela soit même encore plus grave qu'autrefois. Car ça ne peut pas changer. Ça peut pas, les choses ne peuvent pas changer. Mais Dieu connaît les siens. Et il les gardera de ça. Il les gardera. Ensuite, Paul fait mention à ces gens, là, qui justement prêchent Jésus autrement et prêchent un autre évangile et ont reçu un autre esprit. Et il dit ici, au verset 13, car ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ensuite, la phrase vient. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi, ses ministres, donc faisant référence à Satan, hein, ses ministres à lui aussi, se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, Paul n'a pas hésité, n'a pas manqué de dire cette vérité-là et a décrit que Satan a des ministres et que ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Et il dit, c'est pas étonnant parce que Satan lui-même se donne l'apparence d'un ange de lumière. Et alors, il n'y a rien d'étonnant si aussi ces ministres, ces serviteurs, des serviteurs de Satan. Donc, imaginez-vous. Et ils viennent, les serviteurs de Satan viennent et vous prêchent l'évangile. Et ils connaissent mieux l'évangile que les hommes de Dieu envoyés par Dieu. C'est une chose facile. C'est pas facile. Croyez-le-moi, c'est pas facile. Des serviteurs de Satan qui prêchent l'évangile. Mais comme c'était autrefois, c'est comme ça encore aujourd'hui. Vous pouvez me croire. Tout ce qui vient de Dieu conduit et ramène à Dieu, à sa parole. Ça lie avec Dieu. Ça lie les uns avec les autres. Ça ne divise pas. Ça n'apporte pas de trouble. Il n'y a pas de déclaration de guerre. S'il y a un travail ensemble par l'Esprit de Dieu. Car c'est ainsi que c'est écrit. Car c'est écrit, car un seul et même esprit opère toutes ces choses. 1 Corinthiens 12, verset 11, après avoir parlé des noms de l'esprit. Et donc, s'il y a un seul et même esprit, il y a plusieurs, il y a différents. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. On peut le lire dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Mais là où il y a de la désunion, il y a de la tension, de la division. Il y a des différences qui apparaissent. Fini. Là, il n'y a pas de compromis. Il n'y a plus de compromis. Là, on peut à 100% dire, quelqu'un peut dire 100 fois, « Oui, mais c'est la même chose. On écoute les mêmes prédications. C'est les mêmes prédications qu'on écoute. » Et après, on doit avouer que c'est seulement un peu différent. Mais justement, c'est un peu différent là, un peu là. Déséquilibre tout. Et cela ne peut pas subsister devant Dieu. Ensuite, dans 2 Timothée 2, verset 15, on continue. Il est écrit ensuite, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense, parce qu'il dispense droitement la parole de la vérité. » Luther dit, oui, il dispense droitement, oui, la parole de la vérité. Et c'est important, c'est nécessaire. Et dispenser par esprit de dispute et de justifier ses propres opinions, mais poussé par l'Esprit de Dieu. Et la parole de la vérité est droitement dispensée. Ensuite, exhortation, évite les discours vains et profanes. Il y en a qui appellent ça des prédications. Mais Paul appelle ça des discours vains et profanes. Car, donc, évite cela, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, se éloigneront toujours plus de Dieu. Vendredi soir à Salzbourg, je me suis réjoui de l'expression du frère Always Google Bullet. Il disait, frère Frank, quand je viens aux réunions, ce n'est pas pour écouter de celui-ci, cela et d'un autre, encore quelque chose d'autre. Mais je viens pour écouter la parole de Dieu. Et il disait mot à mot, à chaque fois, j'ai reçu encore plus que je me suis attendu de recevoir. Ça, c'est en fait la bonne disposition de cœur et ça devrait être le témoignage de chaque enfant de Dieu. Le Seigneur a la plénitude. Si nous venons vraiment à lui, à la réunion, nous n'allons pas repartir vide, mais de cette plénitude, nous allons prendre grâce et grâce. Et leur parole, non, même pas leur prédication, mais leur parole, en parenthèse, dans ma Bible, leur doctrine rongera comme la gangrène de ce nombre. Et vous savez que là, il n'y a plus de guérison pour le cancer, rongera comme la gangrène. Donc la gangrène, c'est un cancer qui ronge. Et terrestrement, il n'y a pas de guérison, et spirituellement aussi. Et dans la prédication de frère Branham, j'ai écouté cela, on peut avoir une maladie en tant que on peut l'appeler cancer ou bien gangrène parce que les docteurs voient quelque chose qui n'a pas de forme, ils ne voient rien, ça ressemble à rien du tout. Ils voient simplement quelque chose qui se propage. Et il y a plusieurs choses qui sont à voir. Donc, ils appellent ça gangrène et qui ronge. Et la seule chose que la radio pouvait montrer, c'était donc un cancer. Donc, ils appellent ça cancer. Et frère Branham dit, c'est un démon qui s'est saisi de cette personne et qui se bâtit quelque chose pour ronger la vie de cette personne. Et nous tous, nous dirions, mais ça c'est seulement une doctrine, c'est un peu différent. Mais nous, ici, c'est décrit comme une gangrène. Et si on va au fond de la chose, c'est un démon qui a produit cette gangrène. Et qu'est-ce qui se passe alors? Mes bien-aimés, la chose n'est pas si simple que ça, comme nous le faisons. Nous pensons, oh, mais c'est pas grave, c'est seulement un enseignement. Et il y a plusieurs épîtres ici que les apôtres ont écrit aux églises. Et qu'est-ce que nous puisons de ces épîtres? Imaginez-vous. Nous aurons pu nous asseoir là. Et pendant des semaines, des mois ou bien des années, de leur bouche, écouter l'enseignement divin de la bouche de ces apôtres. Qu'est-ce que ce serait été? Que Dieu nous aide de nous accorder sa grâce, de nous accorder sa grâce pour que nous puissions saisir cela et puissions le comprendre de quoi il s'agit. Et autrefois, c'était seulement deux qui avaient été nommés, qui appartenaient à cela, et Huménée et Philétée qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Tel que terrestrement, il n'y a pas de guérison pour la gangrène. Hein. C'est la même chose. Nous, les hommes, nous dirions, si quelqu'un dirait, en 1963, le Seigneur est déjà revenu ou bien descendu, c'est juste là, c'est passé. Et nous, on est assis là et on écoute cela et on pense la partie, mais on doit discerner la chose. C'est un démon. Chaque erreur, chaque faux enseignement vient d'un démon qui veut se saisir de l'humanité. Ça n'a pas d'importance qui ça pourrait être, par qui il le fait. Et on doit faire attention que, oui, on pourrait dire, oh, mais cela est dur. Oui, c'est dur, mais ce n'est pas trop dur. C'est mieux que nous puissions maintenant savoir ça, que chaque erreur a un démon derrière. Derrière chaque erreur, c'est un démon. Et dans la prédication en anglais, je me suis mieux noté cela, c'est dans 2 Pierre, ici il est écrit, 2 Pierre 2, verset 1, « Il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui reniant, c'est de ça qu'il s'agit, des sectes pernicieuses. Et j'ai lu cette fois-ci de la Bible encore, 2 Pierre, chapitre 1, ils introduiront sournoisement des sectes. Nous, c'est ce qui se passe dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin d'une position forme, d'un fondement inébranlable. Et c'est le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et c'est sur ce fondement-là, sur ce fondement, il faut qu'il soit bâti un matériel ferme, inébranlable. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, peut-être à partir du verset 10. Chacun bâtit là-dessus. Et il décrit aussi, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, il monte, chacun bâtit là-dessus. Mais le fondement est posé, est placé. Mais faisons attention, comment est-ce que nous bâtissons? Et faisons attention, je n'ai pas su exactement en ce moment, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19 maintenant. Néanmoins, le solide fondement posé, vous savez, j'ai mentionné cela sans savoir que ça allait venir ici maintenant. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'injustice, de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, et que cela n'est pas quelque chose de merveilleux, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Et personne ne peut le changer. C'est un rocher qu'on ne peut pas déplacer. Il reste ferme. Et nous devons être solidement fondés, placés, posés là-dessus. Le Seigneur connaît les siens. Et les siens sont connus aussi de lui et sont enseignés par lui, apprennent de lui. Les siens, peut-être qu'ils n'ont pas une grande connaissance de la Bible, mais ils pourront faire la différence. Qui leur parle? Ils sauront qui leur parle. Ils connaissent la voix de l'Éternel, du Seigneur. De tout leur cœur, ils sauront. Si cela vient de Dieu, ils remarqueront. Dans le cas, si cela ne vient pas de Dieu non plus, ils le remarqueront. Les siens le remarqueront. Ensuite, il est dit ici, au verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Ça, nous voulons justement aussi le recevoir dans notre cœur. Le verset 21 de 2 Timothée 2. Et, n'est-ce pas, nous conserver purs de tout ce que ces gens-là ont enseigné sur la résurrection ou bien sur l'enlèvement et tous ces discours vains, ces profanes, qui sont comme une gangrène. Nous pouvons nous priver de tout cela. À quoi est-ce qu'un sujet biblique me sert si son exposé sur le sujet n'est pas biblique? Un sujet biblique et son exposé n'est pas biblique. Nous devons faire la différence de ces choses. Et là encore, cette belle formulation, vous n'avez pas besoin. Et encore, vous avez besoin de la foi de l'enlèvement. À quoi est-ce que me sert de dire cela? Moi, je crois ce que la parole de Dieu me dit. On n'a pas besoin ici de tes efforts et de mes efforts. Mais celui qui l'a appelé, il les a aussi justifiés. Et celui qui l'a justifié, il a aussi sanctifié. Et il les a déjà accordé la gloire éternelle. Vous voulez que je vous le lise de Romains 8? À partir du verset 28, 29, 30. C'est écrit. Peut-être que je devrais le lire. Lisons-le pour que vous puissiez tous savoir que c'est écrit dans la parole de Dieu. Pour que vous puissiez savoir que c'est écrit dans la parole de Dieu. Ici, je lis dans Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus, d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous pouvez dire amen à cela? Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il a aussi prédestiné, déterminé à être semblable à l'image de son Fils. Tout ce qu'il a connu à l'avance. La prédestination n'est pas seulement là pour que nous soyons assis ici sur les chaises et écouter la parole de Dieu, mais que nous puissions atteindre le but et être là-bas et être transformés à l'image du Fils de Dieu par l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est la prédestination de Dieu. Nous sommes prédestinés à cela. À l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Accordé la gloire éternelle. La gloire céleste en allemand. C'est la parole de Dieu. Et ça, nous le croyons dans notre cœur. Il nous a déjà accordé la gloire céleste. Si c'est dans ton âme, vraiment, par l'Esprit de Dieu, en tant que témoignage, placé, que avant la fondation du monde, tu as été prédestiné par Dieu pour être racheté, être sauvé, alors, il faut que dans ton cœur, cela aussi soit ainsi que tu as été prédestiné, que tu es prédestiné à voir la gloire de Dieu et à être transformé à l'image de son Fils. Si Jean, ici à partir du verset 1, 1 Jean 3, verset 1, Jean le dit, que ce qui a été nous serons enfants de Dieu, cela, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand ce sera manifesté, nous serons semblables. Alors c'est la même chose. Nous n'avons plus de défauts. Nous savons que Dieu, lui, il a un plan avec nous et que c'est lui qui le fera et que nous sommes une partie ferme de ce plan de Dieu-là qu'il a avec les élus et que nous sommes dépendants de ce qu'un frère vienne à nous et nous apporte un enseignement sur un sujet biblique. Nous sommes dépendants de ça? Non. Si Dieu avait planifié une telle chose misérable, où serions-nous alors? Où serions-nous restés? Non. Nos âmes sont en Dieu. Sont ancrées en Dieu par la parole vivifiante qui produit la vie. Et c'est Dieu qui fera. Pas que nous nous frappons la poitrine et disons, ou bien nous jetons et disons, oh, nous allons le faire par nos propres efforts. Non. Nous mettons notre confiance en Dieu le Seigneur. Et nous savons que il le fera. Et que quiconque met sa confiance en lui, se confie en lui, sera confus. Personne. Toi non plus, bien-aimé cœur, toi non plus, bien-aimé frère et bien-aimé sœur, tu seras confus. S'il est écrit, personne, donc ça veut dire personne. Alors, quelqu'un ne peut pas venir et dire, peut-être que quelqu'un sera confus. Non, ce peut-être-là ne vient pas de Dieu. Personne vient de Dieu. Le personne-là, c'est ça qui vient de Dieu. Quiconque met sa confiance dans le Seigneur ne sera pas confus. Personne qui se confie en l'Éternel sera confus. Il n'est pas écrit. Personne qui met sa confiance dans un homme sera confus. Non, ce n'est pas écrit. Mais si toi et moi, nous mettons notre confiance dans le Seigneur, quiconque met sa confiance dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être confus si nous nous sommes confiés au Seigneur, confiés en sa parole. Quoi qu'arrive, ce sera impossible qu'on soit confus. Loué et exalté soit le nom du Seigneur, qu'il puisse nous encourager et dans nos cœurs mettre sa force et par son esprit nous conduire. Je voulais en fait encore lire cette parole, avoir lu cette parole, que nous avons reçu l'onction qui nous enseigne. Je vais le lire seulement et avec cela, je vais donc finir. Dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous a enseigné, toutes choses vous enseignent, toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Les hommes courent ici et là, veulent toujours écouter quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance. Et ils n'ont même pas encore reçu l'enseignement de Dieu, compris l'enseignement de Dieu, car cet enseignement de Dieu est véritable. Il n'y a pas de mensonge, car l'enseignement de Dieu vient par l'onction du Saint-Esprit et est accordé à ceux qui ont l'onction. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et là où ces vérités de la parole de Dieu sont enseignées par la conduite du Saint-Esprit, là, l'onction du Saint-Esprit est sur ceux qui écoutent aussi et ils reçoivent par la même onction et la même inspiration du même Saint-Esprit, la parole de Dieu qui vivifie et il reçoit l'enseignement divin. Comme c'est merveilleux de ce qu'il est écrit ici. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ou bien qu'on vous apporte encore un autre enseignement. qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Recevons ça dans notre cœur. Si nous avions aux hommes dit ces choses aux hommes, de faire attention et d'être attentif à demeurer dans la parole de Dieu. Que Dieu accorde sa grâce, qu'il puisse nous parler, que le Seigneur puisse accorder sa grâce et être avec tous ceux qu'il a déterminés à voir sa gloire. Cette onction reçue de celui qui est saint demeurera en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Le Seigneur a accordé sa grâce et a accordé un enseignement sur tout, même sur l'amour fraternel. Et cet enseignement de Dieu est clair et est vrai. Et il n'y a pas de mensonge dans cet enseignement. Mais tel que le serpent a pris la parole qui est sainte et qui était vraie, et l'a un peu formée autrement, et il en a fait un mensonge. Ce n'était plus véritable, c'était maintenant un mensonge. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec tous ceux qui ont pris la parole de Dieu révélée et qui ont infiltré leur propre opinion. Et comme il est écrit ici, regardez la comparaison, tirez la comparaison. Je ne voulais même pas le faire ici. J'aime pas, mais c'est écrit ici. Quelle est véritable et quelle n'est point un mensonge? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que c'est qu'un mensonge? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ce qui ne vient pas de la vérité. Ce qui ne vient pas des Écritures. C'est ce que nous avons compris. Or, l'onction nous enseigne et elle n'est point un mensonge. Car l'enseignement de l'onction a son origine dans la vérité, dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Les Écritures, au moment où l'adversaire utilise la parole, il la sort de son contexte et déjà ça devient un mensonge. Et c'est il déclare cela comme une connaissance super, ce qui rend sage, qui ouvre les yeux, qui accorde plus de compréhension. Oh, maintenant on comprend mieux les choses. Oh, c'est plus profond. Ah, ça semble. Oh, mais c'est la chute. C'est la chute. C'était bien pour les yeux, bien pour les oreilles, mais mal, mauvais pour le cœur, pour l'âme. La tromperie se cache à l'intérieur et l'aiguillon de la mort a piqué. Que Dieu accorde sa grâce pour que nous puissions prendre cet avertissement au sérieux et remercier Dieu pour cela. Et que nous avons trouvé grâce devant lui, devant sa face. Et que nous avons eu la grâce de recevoir dans la pureté, la clarté, en tant que vérité, ce qu'il nous a dit dans cette génération, par sa parole, par le message, ce qu'il nous a accordé à lui. Le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration d'éternité en éternité. Amen.